Bonjour, je vais vous lire des extraits de La main enchantée de Gérard de Nerval, texte que j'ai trouvé dans le fond carré du fonds patrimonial de la bibliothèque municipale de Semur-en-Auxois. Je vous dis des extraits car en fait je démarre par le chapitre 4. Le pont neuf. Le pont neuf, achevé sous Henri IV, est le principal monument de ce règne. Rien ne ressemble à l'enthousiasme que sa vue excita lorsque, après de grands travaux, il eut entièrement traversé la Seine de ses 12 enjambées et rejoint plus étroitement les trois cités de la maîtresse-ville. Aussi devint-il bientôt le rendez-vous de tous les oisifs parisiens, dont le nombre est grand, et, partant, de tous les jongleurs, vendeurs d'onguents et filous, dont les métiers sont mis en branle par la foule, comme un moulin par un courant d'eau. Quand Eustache sortit du triangle de la place Dauphine, le soleil dardait à plomb ses rayons poudreux sur le pont, et l'affluence y était grande, les promenades les plus fréquentées de toutes à Paris étant d'ordinaire celles qui ne sont fleuries que d'étalages, terrassées que de pavés, ombragées que de murailles et de maisons. Eustache fendait à grand-peine ce fleuve de peuple qui croisait l'autre fleuve et s'écoulait avec lenteur d'un bout à l'autre du pont, arrêté du moindre obstacle, comme des glaçons que l'eau charrie, formant de place en place mille tournants et mille remous autour de quelques escamoteurs, chanteurs ou marchands prenant leurs denrées. Beaucoup s'arrêtaient le long des parapets à voir passer les trains de bois sous les arches, circuler les bateaux, ou bien contempler le magnifique point de vue qu'offrait la Seine en aval du pont, la Seine côtoyant à droite la longue file des bâtiments du Louvre, à gauche le grand pré aux clercs, rayé de ses belles allées de tilleuls, encadré de ses saules gris ébouriffés et de ses saules verts pleurant dans l'eau. Puis, sur chaque bord, la tour de Nesle et la tour de Bois, qui semblaient faire sentinelle aux portes de Paris comme les géants des romans anciens. Tout à coup, un grand bruit de pétards fit tourner vers un point unique les yeux des promeneurs et des observateurs et annonça un spectacle digne de fixer l'attention. C'était au centre d'une de ces petites plateformes en demi-lune, surmontée naguère encore de boutiques en pierre et qui formaient alors des espaces vides au-dessus de chaque pile du pont et en dehors de la chaussée. Un escamoteur s'y était établi. Il avait dressé une table et sur cette table se promenait un fort beau singe, en costume complet de diable, noir et rouge, avec la queue naturelle, et qui, sans la moindre timidité, tirait force pétards et soleil d'artifice au grand dommage de toutes les barbes et les fraises qui n'avaient pas élargi le cercle assez vite. Pour son maître, c'était une de ces figures du type bohémien, commun, 100 ans auparavant, déjà rare alors, et aujourd'hui noyé et perdu dans la laideur et l'insignifiance de nos têtes bourgeoises. Un profil en fer de hache, front élevé mais étroit, nez très long et très bossu, et cependant ne surplombant pas comme les nez romains, mais fort retroussé au contraire, et dépassant à peine de sa pointe la bouche aux lèvres minces très avancées et le menton rentré. Puis des yeux longs et fendus obliquement sous leurs sourcils, dessinés comme un V, et de longs cheveux noirs complétant l'ensemble. Enfin, quelque chose de souple et de dégagé dans les gestes, et dans toute l'attitude du corps témoignait un drôle adroit de ses membres et brisé de bonheur à plusieurs métiers et à beaucoup d'autres. Son habillement était un vieux costume de bouffon qu'il portait avec dignité. Sa coiffure, un grand chapeau de feutre à large bord, extrêmement froissé et recroquevillé. Maître Gonin était le nom que tout le monde lui donnait, soit à cause de son habileté et de ses tours d'adresse, soit qu'il descendît effectivement de ce fameux jongleur qui fonda, sous Charles VII, le théâtre des enfants sans souci et porta le premier le titre de prince des sceaux, lequel, à l'époque de cette histoire, avait passé au seigneur d'Engoulevent, qui en soutint les prérogatives souveraines jusque devant les parlements.